7h30 à Paris. Vous êtes à présent en compagnie de Romain Anzoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Marion Cazeneuve. Et bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'écoute de Radio France Internationale, allez un coup d'œil au programme de la soirée. Après le journal de 19h, RFI Soir célébrera les 100 ans de Total Energy, le groupe pétrolier aussi puissant, dira-t-on, que controversé à l'heure du changement climatique et qui opte, vous le verrez, pour un double discours face aux critiques. La lutte contre l'infox à l'approche des élections européennes. Dans cette optique, eh bien, la Commission européenne adresse une mise en garde aux grandes plateformes en ligne. On en parlera avec notre expert. Question d'environnement, avant 19h30, ce soir, que devient une nation quand elle n'a plus de territoire? Question dramatique, enjeu qui l'est tout autant et enjeu qui guette les Tuvalu, archipel situé au large de l'Australie. 19h30, dans une heure Afrique Soir, la première édition, mais pour le moment, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Anzoui.
Et ce soir, le débat du jour nous emmène à 400 000 km environ de la Terre, direction la Lune, car 2024 est l'année de la Lune. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est le très sérieux magazine international New Scientist. Et pour cause, une dizaine de missions sont au programme. L'une des premières a fait beaucoup de bruit, c'était au début de l'année, le retour du programme américain, plus de 50 ans après Apollo, avec pour la première fois le décollage d'une fusée privée. À qui appartient la Lune? Voilà la question qu'on pose ce soir. Car la ruée s'annonce chaotique, de l'aveu même des experts. Pourquoi? Quel cadre y a-t-il dans cette course à la Lune? Et puis, pourquoi les appétits s'aiguisent-ils ainsi? Quels sont les enjeux de la Lune? Soyez le bienvenu dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Isabelle Sourbès-Verger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS, Sandre-Alexandre Coyeret, spécialiste des questions de géopolitique de l'espace. Je vais citer votre ouvrage qui est sorti l'an dernier, Géopolitique du monde spatial. Face à vous, Philippe Aquileas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Saclay et des télécoms, directeur de l'Institut du droit et des télécoms. Jean-Luc Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, spécialiste des questions spatiales, chercheur en stratégie, et vous avez rédigé Stratégie spatiale. Merci à vous trois.
Tout à fait.
D'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, j'évoquais le programme chargé de l'année vers la Lune, mais finalement c'est que la suite d'une accélération de ces dernières années. 2019, arrivé sur la Lune de la Chine, de l'Inde en 2023, en août 2023, du Japon ensuite au mois de janvier de cette année. Jean-Luc Lefebvre, il faut dire quoi? C'est une conquête de la Lune? C'est une boulimie? Et puis surtout, pourquoi ce phénomène? Pourquoi cette accélération?
Bah écoutez, tout le monde s'intéresse à la Lune. Alors pourquoi s'intéresser à la Lune? Bon, on peut se placer d'un point de vue stratégique. Hein. La Lune est un point haut qui domine la Terre, vous l'avez rappelé, à 400 000 km environ. Et avec les moyens qui seront les moyens des puissances de demain, c'est intéressant d'occuper la surface de la Lune, soit pour menacer ou observer ce qui se passe dans la périphérie terrestre. Hein. Depuis la Lune, on voit pratiquement la moitié de tous les satellites qui orbitent autour de la Terre. Et puis, ça c'est le point de vue, je vais dire, plutôt offensif. Et puis le point de vue défensif, l'endroit le mieux protégé du monde contre toute attaque, c'est la face cachée de la Lune.
Mmh. Isabelle Sourbès-Verger, vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'espace. Est-ce que vous diriez que la géopolitique, c'est la première raison de cette conquête de la Lune qu'on observe cette année, 2024, et puis qu'on a observé particulièrement ces dernières années?
Non, je ne dirais pas exactement ça. Je dirais qu'il y a deux choses dans les activités dans le milieu spatial. Il y a la projection dans l'espace des géopolitiques terrestres, et ça, on le voit très bien sur tout le discours qui a été mis en place, en particulier par les États-Unis, sur la concurrence potentielle de la Chine, parce que, par exemple, on peut considérer que la Chine est en train aujourd'hui de faire, avec 50 ans de retard, ce que les États-Unis avaient fait. Vous citiez 2019 comme une des premières missions, et en même temps, les États-Unis, eux, choisissent de mettre un débat qui est beaucoup plus dans l'optique d'une guerre froide, qui est, si nous ne sommes pas les premiers à revenir sur la Lune, c'est la Chine qui le fera avant nous. Donc ça, c'est vraiment une projection qu'on fait, nous, terriens, de cette vision du spatial. Et l'autre côté, et moi ça m'intéresse beaucoup en tant que géographe, c'est de préciser que le milieu spatial, il ressemble pas du tout au milieu terrestre.
D'accord.
Et que n'y a pas les échanges entre la Terre et la Lune, comme il pourrait y avoir avec un port, que la compagnie des Indes occidentales, ça ne va pas exister avec les privés, et que toutes ces analogies, elles ont des grosses limites, parce que simplement, le milieu spatial, eh ben, il est hostile, il n'est pas favorable à la présence de l'homme, que l'exploitation des ressources, ça va être coûteux, compliqué, etc. etc.
Donc, mais vous l'avez dit, les deux grands rivaux, pardon, dans la conquête de la Lune, enfin de la course à la Lune,
le lire comme ça.
Les États-Unis et la Chine.
Ils sont
aussi rivaux sur Terre.
Oui, c'est ça. On projette parce qu'ils sont rivaux sur Terre, d'accord, le fait qu'ils seront sur la Lune. Parce que si vous regardez, le Japon n'est pas du tout prévu comme un concurrent, etc. Alors que le Japon fait aussi de belles missions et que l'Europe fera aussi des missions sur la Lune. Alors la Russie a raté la sienne. Mais si vous voulez, c'est vraiment nous qui voulons projeter cette image. Et de fait, quand vous projetez une image, d'une certaine façon, vous avez un effet retour, c'est évident. Mais ce n'est pas le milieu spatial qui engendre cette géopolitique.
Mais alors comment est-ce que vous justifiez cette course à la Lune, encore une fois?
D'abord, je ne suis pas sûre qu'il y ait une course à la Lune. Je dirais qu'il n'y a qu'un seul satellite naturel de la Terre, ouais, c'est la Lune. Donc, à un moment, quand vous avez une certaine maturité technologique...
C'est le bon moment.
C'est le bon moment. Et regardez l'Inde. L'Inde a des missions lunaires, à la fois aussi pour apparaître par rapport à la Chine, mais surtout pour être reconnue comme une grande puissance technologique moderne et scientifique. Ce n'est pas pour aller combattre qui que ce soit sur la Lune. Donc, il y a ces différentes logiques qui s'enchevêtrent et qui font que l'intérêt pour la Lune, c'est à la fois un intérêt scientifique. Alors, on a encore des découvertes à faire sur la Lune, y compris, on attend beaucoup des missions chinoises qui ramèneront des échantillons de la face cachée. C'est voir si on peut s'établir sur la Lune et comment on peut éventuellement y développer des activités. Et ça supposerait d'aller extraire déjà de l'eau dans le pôle sud de la Lune. Mais c'est compliqué parce que quand l'eau est gelée, c'est que vous n'avez pas le soleil. Quand vous n'avez pas le soleil, vous n'avez pas de quoi faire fonctionner votre robot. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même des conditions extrêmement difficiles. Et puis, cette idée, effectivement, qui est défendue par beaucoup, que l'homme a toujours une mentalité d'explorateur et que maintenant qu'il a fini d'explorer la Terre, eh bien, il va explorer ce qui est dans sa banlieue la plus proche et qui est la Lune. Ça pourrait se discuter. Mais en tout cas, c'est vrai que cette logique, elle est vécue comme telle par certains.
Alors, on a commencé à parler géopolitique. Vous nous avez dit que finalement, on projette beaucoup de choses à partir de la Terre vers la Lune sur cette question géopolitique. Mais vous avez évoqué aussi l'enjeu, par exemple, pour l'Inde, de la conquête de la Lune, qui est un enjeu pour montrer qu'elle est une grande puissance technologique. Ça pose la question de l'économie. Jean-Luc Lefebvre, après, je vais vous donner la parole, Philippe Aquileas, parce qu'évidemment, la question du droit, elle est très, très importante dans cette question de la course à la Lune. L'enjeu n'est pas d'abord économique.
Alors, il y a aussi un enjeu économique. La Lune a des ressources que n'a pas la Terre. Par exemple, l'hélium-3, qui est le carburant de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est l'énergie de la deuxième moitié du XXIe siècle. La Lune a probablement de grandes quantités de terres rares. Mais là, je rejoins la remarque d'Isabelle Survès, parce que il y a un bilan économique à faire. Il faut que, si on veut exploiter les ressources de la Lune, ce soit économiquement rentable.
Donc, on sait exactement ce qu'il y a sur la Lune pour savoir si c'est économiquement rentable déjà.
Alors, on sait un certain nombre de choses. On sait ce qu'il y a en surface. Alors, ce qu'il y a en surface en très grande quantité, c'est ce qu'on appelle le régolithe. Le régolithe, c'est la poussière lunaire. Et on imagine qu'avec ce régolithe, on pourrait s'en servir comme matériau de construction pour les ouvrages que l'on pourrait construire à la surface de la Lune. On imagine l'utiliser dans des, comment dire, de la photocopie, la construction.
Des imprimantes 3D.
L'imprimante 3D, je cherchais le terme, pour faire des constructions à la surface de la Lune. Donc on imagine quand même, dans un premier temps, avoir plutôt une approche de pionnier, scientifique, en utilisant au maximum les ressources qu'on va trouver sur place pour pouvoir s'implanter et vivre sur place. Je pense que l'exploitation économique des ressources minières de la Lune ne pourront venir que dans un second temps, ouais. Parce que elles sont pas immédiatement rentables, je pense.
Et ouais. On ne sait pas, plus de 50 ans encore une fois, après que qu'un premier homme a posé le pied sur la Lune, on ne sait toujours pas si c'est juteux, aussi, si c'est intéressant économiquement, si c'est vraiment valable, si ça vaut cette ruée qui a lieu actuellement.
Oui, mais vous employez un terme qui est trop fort. Hein. C'est ça, pas ça la ruée vers l'or, la conquête de l'Ouest. il y a pour l'instant un certain nombre de robots qui sont envoyés à la surface de la Lune. Il y aura dans les années qui viennent quelques missions humaines. Mais simplement pour marquer son territoire. Ouais. Hein, les Américains veulent y retourner, et ce sont les seuls qui peuvent prétendre y retourner, puisque ce sont les seuls à y être déjà allés. Ouais. Les Chinois iront très certainement, les Indiens suivront, et puis attendons la suite.
Si on veut exploiter les ressources de la Lune, vous avez commencé une phrase comme ça, Jean-Luc Lefebvre, Philippe Aquilea, je me tourne vers vous. Si on veut exploiter les ressources de la Lune, on peut exploiter les ressources de la Lune comme on veut aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, le régime international qui est posé par l'ONU prévoit d'abord le principe de non-appropriation de la Lune et des autres corps célestes. Le régime du traité de l'espace de 1967 ne mentionne pas les ressources. Donc il y a ici une brèche dans laquelle se sont engouffrés les États qui considèrent que le principe de non-appropriation de la Lune ne concerne pas les ressources de la Lune. Autrement dit, revendiquer un droit de propriété sur la Lune, c'est illicite. En revanche, exploiter les ressources de la Lune, cela n'est pas interdit, en tout cas pas par le traité de l'espace de 1967.
Bah, il est vieux ce traité, il faut dire aussi. Hein. 1967, c'était avant que le premier homme marche sur la Lune.
Mais justement, on a voulu le signer en prévision de cette course à la Lune. On voulait absolument prévoir les règles du jeu pour que la première puissance qui atteigne la Lune, on ne savait pas encore à l'époque qui allait remporter la course, eh bien plante son drapeau et dise ça m'appartient. Donc on a pris ce principe de non-appropriation et puis d'autres principes, parce qu'il fallait aussi résoudre la question de l'utilisation pacifique de l'espace, et on a anticipé le futur régime juridique de l'espace et des corps célestes.
Alors, je disais le mot ruée, ça ne plaisait pas trop à Jean-Luc Lefebvre, mais c'est vrai que j'ai lu même ruée chaotique. Ça veut dire qu'il faut encadrer cette course à la Lune, on va pas dire le mot ruée, je ne veux pas vous énerver, Jean-Luc Lefebvre. Philippe Aquileas.
Mais c'est vrai qu'on dit souvent que c'est un Far West juridique.
Ouais.
Ce n'est pas tout à fait exact, car le traité de l'espace place toutes les activités spatiales sous le contrôle et la responsabilité des États. Donc il y a toujours l'État qui est là pour autoriser les missions lunaires, pour encadrer ces missions par des réglementations techniques et qui engage sa responsabilité en cas de dommage et même en cas de violation du droit international. Ça, c'est un principe très fort, unique en droit international, voulu parce que l'URSS avait monnayé ce principe de contrôle et de responsabilité de l'État en échange de la licéité de l'envoi de missions privées dans l'espace et sur la Lune.
Est-ce qu'il faudra faire évoluer ce cadre ?
Alors, bien sûr, il faut le faire évoluer parce que aujourd'hui, nous avons besoin de réglementations techniques, concrètes, d'application. Et là, les acteurs privés jouent un rôle très intéressant parce qu'ils sont en train de développer des normes techniques qu'ils veulent imposer comme étant les normes internationales. Et les Américains ont une certaine avance en la matière.
Mais comment on peut réguler ? Comment ? Il faut un nouveau traité de la Lune ?
On ne va pas adopter aujourd'hui un nouveau traité de la Lune. En revanche, on va adopter des réglementations techniques à l'ONU. C'est le travail du comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de l'ONU qui s'appuie aujourd'hui sur la pratique de l'industrie pour identifier les normes et les règles techniques qui doivent encadrer les activités spatiales.
Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de garde-fous pour empêcher une exploration qui deviendrait hors de contrôle ?
Alors, oui et non. Oui, parce qu'on a quand même ce régime de licence. Et on voit bien qu'on tient les opérateurs privés par le jeu des licences. Mais lorsque vous avez un opérateur qui devient en hyperpuissance, comme le cas de SpaceX, hein, on le voit avec l'exploitation des orbites basses, on voit bien que SpaceX est en mesure là, d'imposer son point de vue, d'imposer ses normes, d'imposer ses règles, même à l'État américain.
Et SpaceX, c'est l'entreprise, on rappelle, d'Elon Musk, qui est tous azimuts, effectivement, sur cette question-là. Isabelle Fou, Sourbès-Verger, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, non, je repartais des mots qu'on emploie. Et c'est vrai que le traitement médiatique, quand même, qui est fait de ces aventures lunaires, il est toujours le même. C'est-à-dire qu'on va parler de ruée, et le faible a dit spontanément, il a dit la ruée vers l'ouest, la ruée vers l'or. Et c'est à ça que ça fait allusion. Bien sûr. Mais ça, c'est pas du tout à quoi ça correspond. Et le chaotique, c'est pareil. Ça, c'est vraiment un terme de journaliste. Il n'y a rien de chaotique du tout. Ouais. Les plans de vol, ils sont extrêmement prévus. Et c'était intéressant parce que au mois d'août 2023, vous aviez théoriquement et la Russie et l'Inde qui devaient se poser à proximité au pôle sud de la Lune, et il n'y avait pas de risque d'embouteillage et il n'y avait pas de risque de collision. Donc c'est vraiment une espèce de volonté un petit peu liée à de la science-fiction et à des expériences terrestres qu'on veut reproduire sur la Lune. Et le mot conquête, c'est pareil, c'est pas un bon mot, parce que on peut parler aussi d'exploration. Les scientifiques parlent d'exploration. Pourquoi parler de conquête ? C'est pas un territoire qu'on va pouvoir s'approprier. Et même si on peut poser une base, même si on peut y avoir des activités, etc., etc., ça ne sera pas un territoire au sens où ça sera reconnu par l'ONU comme territoire. Ce n'est pas une colonisation qu'on peut non plus utiliser, même si ces mots-là, on les emploie parce que c'est une image, ça nous simplifie la vie. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce qu'accessoirement, exploiter les ressources, c'est très bien, mais les filons, par exemple, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas quelles sont leurs teneurs, quelles sont leurs rentabilités. On voit bien tout le travail que le BRGM doit faire pour, sur Terre. Donc tout ça, c'est quand même encore très ouvert. Et quand vous calculez le coût d'une mission japonaise pour ramener quelques grammes d'un astéroïde, on se doute bien que c'est pas comme ça qu'on va faire d'exploitation industrielle.
Mais donc, on se demande aussi à quoi ça sert dans ce cas-là, ça coûte si cher.
Ça sert à faire de la science, c'est-à-dire à découvrir de quoi il fait un astéroïde, etc. Et par exemple, la Lune, sur la Lune, les Chinois disent qu'ils vont faire une base scientifique. Ouais. Ils veulent pas du tout entendre parler d'exploitation. Or, ils auront besoin, eux aussi, in situ, d'utiliser des ressources. Donc, d'une certaine façon, si vous voulez, tout le monde joue sur l'ambiguïté que décrivait Philippe Aquileas et qui reste quand même sous le contrôle des États. Mmh. C'est-à-dire que la responsabilité qui est engagée, c'est celle de l'État qui a autorisé ces acteurs.
En tout cas, vous entendez tous les trois qui êtes des spécialistes de l'espace, particulièrement de la Lune. On comprend qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur ce que
ça, c'est sûr.
La Lune a encore énormément de choses qu'elle n'a pas montrées. Et on n'a pas dit le mot fantasme, mais il y a beaucoup de fantasmes encore aujourd'hui autour de la Lune, non ? Est-ce que c'est ce qui explique aussi cette volonté de tous participer, les États, à un projet spatial, un projet lunaire ?
Je crois Jean-Luc Lefebvre. Que les États ont des arrière-pensées. Isabelle disait qu'on n'en est pas à la conquête, on n'en est pas à la conquête aujourd'hui, mais la grosse différence entre l'espace, là où sont les satellites, et la Lune, c'est que la Lune a un sol. La Lune a potentiellement un territoire, et un territoire, on peut se l'approprier. Philippe Aquileas a rappelé les principes du droit. Mais le principe absolu, c'est que la force prime le droit. Hein. Regardez ce qui se passe dans le Donbass aujourd'hui. Le Donbass est une partie en droit de l'Ukraine, mais la Russie a envahi une partie de ce territoire, et les gens qui sont en droit les propriétaires de ce territoire n'en disposent pas. Et la Lune peut... dans le futur, pas dans la décennie qui vient, mais dans le futur, être l'enjeu de conquête et de différents pour s'approprier une partie du territoire de la Lune. N'est pas à exclure.
Vous avez évoqué les terres rares tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer, on va être concret, les terres rares, on en a besoin pour de nouveaux matériaux, les voitures électriques par exemple, de nouveaux projets. On peut imaginer dans plusieurs décennies qu'on ait besoin des terres rares issues de la Lune pour être à la hauteur de la production de voitures électriques dans le monde.
Il faut les faire revenir. faut les faire revenir vos terres rares. Et c'est aussi Isabelle coûteux Fourme, de faire revenir. C'est aussi coûteux de faire revenir de la. Ça vous demande un bouclier thermique, ça demande d'entrée, ça n'a pas de logique économique. Ouais. Les exploitations qu'on pourra faire des ressources sur la Lune, ça sera pour rester dans l'espace. Parce que si vous voulez effectivement avoir des bases qui sont pérennes et si vous voulez avoir des activités qui sont pérennes, vous n'allez pas tout monter de la Terre. 400 000 km comme ça, ça paraît pas loin, mais enfin, c'est des gros vaisseaux. On voit bien le fusée Starship qui est en train de développer Elon Musk, etc. Donc, si on doit rester dans l'espace, ça veut dire qu'il va, et sur la Lune, ça veut dire qu'il va falloir fabriquer de l'eau, ça veut dire qu'il va falloir utiliser de l'air, ça va falloir qu'il va fabriquer. Enfin, rien n'existe. L'espace, il n'est pas fait pour l'homme. Hein. C'est pas un milieu sympa du tout.
Non, vous avez parlé de la question de l'eau, justement. En quoi c'est un enjeu majeur, justement, de la. Alors, course à la Lune, on ne va pas dire la conquête lunaire.
Si vous n'avez pas d'eau, eh bien déjà, comment vous pouvez faire vivre des personnes sans eau? Comment est-ce que vous pouvez aussi générer du carburant si vous n'avez pas de l'eau? Donc, l'eau est une ressource qui va permettre de s'installer, d'installer l'homme de manière permanente sur la Lune, de faire aussi de la Lune une base de départ pour l'exploration d'autres planètes, les voyages vers Mars, par exemple.
Et ça non plus, on ne connaît pas la réalité de la ressource en eau sur la Lune?
Non, pas encore.
Ouais. Okay.
RFI, le débat du jour.
À qui appartient la Lune? La question qu'on pose ce soir, car 2024 est l'année de la Lune, annonce le très sérieux magazine international New Scientist. Mes trois invités en studio avec moi, Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche au CNRS Centre Alexandre Coyeret, spécialiste des questions de géopolitique de l'espace, Philippe Aquileas, professeur de droit public à l'Université Paris-Saclay, directeur de l'Institut du droit, de l'espace et des télécoms, et Jean-Luc Lefebvre, spécialiste des questions spatiales, chercheur en stratégie. On a évoqué, parce que toutes ces nations qui se précipitent un petit peu vers la Lune, aujourd'hui il y a 5 nations qui ont réussi un alunissage, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon. Qu'en est-il de la question de l'homme sur la Lune? Parce que ça fait plus de 50 ans maintenant qu'un homme n'a pas marché sur la Lune. Et les Américains doivent à nouveau fouler la Lune en 2026 et les Chinois en 2029. Je me tourne vers vous, Isabelle Sourbès-Verger. Là, pour le coup, il y a une lutte d'influence importante. 2029, pour les Chinois, ce sera les 80 ans de la République populaire de Chine.
S'ils y arrivent, mais enfin, s'ils le font en 2030, ils seront très fiers quand même, c'est pas très grave. Et l'originalité, peut-être, c'est aussi que c'est censé être une femme. Et peut-être pas un homme, d'où ce glissement d'un programme Apollo à un programme Artemis. Donc la mythologie joue son rôle aux États-Unis, qui annonce aussi comme différence le fait qu'il y aura également une personne de couleur dans les premières missions. Donc dans ce discours très politiquement correct, on voit bien que l'idée c'est de montrer qu'on va essayer de normaliser en quelque sorte la vie sur la Lune, mais normaliser la vie dans un milieu qui est aussi hostile et où ça va être aussi coûteux de faire vivre des êtres humains, ça va être très compliqué. Ouais. Et ce qui est intéressant, moi je pense aussi, c'est quand même la question de pendant combien de temps les États-Unis sont prêts à payer 10 milliards de dollars, ce qui est quasiment le budget spatial européen dans sa totalité, pour faire vivre peut-être 4 ou 5 ou 10 personnes sur la Lune. Alors qu'on voit bien en parallèle les avancées de la robotique, les avancées de l'intelligence artificielle, et on peut imaginer que peut-être l'essentiel de l'activité sur la Lune sera plus une activité robotique qu'une activité humaine.
Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les moyens déployés dans la course à la Lune et les résultats obtenus finalement?
Je voulais juste rajouter sur la question du budget, effectivement, qui est colossal. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont modifié leurs droits, leurs lois nationales, pour attirer les investisseurs privés sur les programmes lunaires. Donc, en garantissant aux investisseurs privés des droits de propriété sur les ressources, de la Lune. Ça, c'était une première en 2015. C'est Obama qui avait donc adopté cette loi. Et donc, le pari que font les États-Unis, c'est qu'il y aura des entreprises privées, des entrepreneurs privés qui vont venir participer au financement des programmes lunaires. Ça, c'est une des conditions de la présence de l'humain sur la Lune.
Et sur la question de décalage entre moyens et résultats?
Les moyens, effectivement, de toute façon, déjà la première mission lunaire, donc le programme Apollo, c'était pour moi une mission marketing. C'était juste, on a payé très très cher pour planter son drapeau et dire on est la première puissance spatiale, on est la première puissance mondiale. Donc déjà à l'époque, on avait beaucoup payé pour pas grand chose.
Mais 50 ans plus tard, on en est toujours au même niveau. Alors, Jean-Luc Lefebvre.
Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que au-delà du prestige, le programme Apollo est pour moi un énorme pari de jeune Fitzgerald Kennedy pour porter sur un autre plan la guerre froide, la guerre qui aurait pu devenir une vraie guerre entre l'URSS et les États-Unis, hein, souvenez-vous des années 60, de la crise des missiles de Cuba, etc. Le monde a frôlé la guerre nucléaire. Et je crois que Kennedy et son équipe ont eu cette vision de dire si on propose un challenge à l'URSS symbolique qui est d'aller décrocher la Lune finalement, on va porter notre affrontement sur un plan qui n'est pas dangereux militairement, qui ne va pas tuer des gens, mais dans lesquels les deux nations vont s'investir. Et c'est pour ça que les États-Unis ont mis tous leurs moyens là-dedans, et les Soviétiques aussi. Ils ont caché leurs échecs, on les a découverts bien après. Mais les Soviétiques, qui ont été les premiers à envoyer un satellite artificiel de la Terre, les premiers à envoyer un homme dans l'espace, les premiers à faire une sortie spatiale, etc., eh bien, ils ont loupé l'arrivée sur la Lune.
Donc l'enjeu géopolitique, il était là, il est toujours là, cette lutte d'influence. Quand, je te disais, les Chinois veulent justement envoyer un homme sur la Lune en 2029, année des 80 ans de la République populaire de Chine, et quand le chef de la NASA américaine dit « je ne crois pas que la Chine atterrira avant nous ».
Oui, mais c'est vous continuez à projeter sur la Lune une géopolitique terrestre.
Bien sûr.
Et d'une certaine façon, je dirais que la question, elle se pose à la fois comme ça et pas comme ça, parce que qu'est-ce que ça va rapporter dans un premier temps de marcher 60 ans après les États-Unis ? Les Chinois, ils font pas la course pour revenir sur la Lune, sachant que les États-Unis, eux, y ont déjà été. Ils s'imposent, ils démontrent qu'ils sont capables d'aller à leur tour sur la Lune, ce qui est un petit peu différent. Et ce que je voulais rappeler, c'est qu'à l'origine, Kennedy, lui, c'était pas un drapeau des États-Unis qu'il avait prévu de mettre, c'était un drapeau des Nations Unies. Ce qui était très différent, parce que d'une certaine façon, c'était vraiment l'étendard de la liberté américain éclairant la totalité de l'humanité, d'où la fameuse phrase, hein, un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Et c'est Nixon qui, dans le contexte bien particulier de la guerre du Vietnam, a privilégié un affichage américain, où là, il y avait vraiment besoin, je dirais, de redorer l'image des États-Unis, à la fois sur le plan national et international. Ouais. Mais au départ, c'était pas si clair. En tout cas, c'était évident que les États-Unis cherchaient à démontrer leur supériorité scientifique et technologique là-dessus.
Et cet affichage est toujours là, plus de 50 ans après. Il nous reste un peu plus d'une minute. Je voudrais vous faire réagir à ce projet Sanctuaire de la Lune. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Projet en partenariat avec l'UNESCO et la NASA, et qui consiste à déposer sur la surface de la Lune, a priori en 2027, une capsule de près d'un kilo et demi composée de plusieurs disques, et dans ces disques, je cite, un condensé du patrimoine culturel de l'humanité pour les transmettre aux générations futures, voire d'éventuelles civilisations extraterrestres.
Non mais là, on voit qu'on essaye de maintenir un intérêt pour la Lune par tous les moyens, alors que la discussion de ce soir montre que finalement, c'est le politique qui domine, qu'il n'y a pas de marché. Les entreprises qui étaient les premières à dire on va faire du business sur la Lune en exploitant les ressources ont fait faillite. Donc voilà, on maintient cet intérêt, comme l'exposition. Vous savez qu'il y a une mission qui a conduit donc un artiste à déposer des œuvres d'art sur la Lune. Tout ça fait qu'on essaye de gonfler la bulle autour de cette aventure lunaire.
Jean-Luc Lefebvre, le mot de la fin, il nous reste 30 secondes.
Oui, alors, si la Lune n'appartient à personne pour l'instant, il y a des gens qui, en étant bien les pieds sur Terre, tirent des revenus de la Lune. Il y a un certain monsieur Hopp qui vend du terrain lunaire, vous pouvez acheter sur internet votre parcelle de terrain lunaire et on vous remettra un titre de propriété. Évidemment, avant que vous alliez y construire votre maison, il se passera un peu de temps et tout ça enrichit ce cher monsieur Hopp au nom bien choisi.
Ben voilà, c'est exactement. Hop, espoir. On termine avec ces mots. La Lune n'appartient à personne, mais en tout cas beaucoup de symbolique dans cette conquête de la Lune. Merci beaucoup à vous trois, Jean-Luc Lefebvre, Philippe Aquileas et Isabelle Surbès-Verger. Merci beaucoup, merci à Florence Ponce et Arnold Assewa à la préparation du débat du jour. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans 30 secondes, c'est RFI Soir.